Bruno Paillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Lançon BCC. On va parler avec vous de ce marché du champagne, hein, que vous connaissez bien et que vous développez à travers vos différentes marques. Ce marché, comment il se porte au global? Parce qu'on a l'impression que ça fait maintenant quelques années qu'il est plus difficile. Il a eu son heure de gloire et il a l'air un petit peu plus compliqué.
Eh bien, la situation est contrastée, mais globalement, il se porte bien tout de même. Il faut bien voir que depuis le record de 2007, il y avait eu certes une chute en 2008 et en 2009, mais depuis, toutes les années sont en progression sur l'ensemble de la profession champagne. Alors maintenant, à l'intérieur de cette profession champagne, vous avez d'abord différentes destinations, et puis vous avez différents expéditeurs, différentes catégories. Alors ce que l'on constate, c'est que depuis 9 ans, par exemple, ce qu'on appelle les récoltants manipulants, les petits vignerons qui vinifient un peu de leur production et qui la vendent directement en particulier, sont en récession constante. Les coopératives sont stables, mais les maisons, elles sont en progression tout de même. Alors, ça, c'est par catégorie d'expéditeurs. Ensuite, par type de marché, on distingue trois grands marchés: la France, l'Union européenne, et puis l'export hors Union européenne. Là, c'est très contrasté aussi. La France, compte tenu du matraquage fiscal des années Hollande, la consommation des classes moyennes a baissé. Et donc la France reste un marché difficile qui est en retard.
Donc là, ça s'est ressenti sur quel type de produit, par exemple?
Sur les produits qui sont vendus essentiellement en France, c'est-à-dire d'abord, je vous le disais, ceux des petits vignerons. En ce qui concerne nos maisons, parce que vous avez dit marques, j'insiste, ce ne sont pas des marques, ce sont des maisons. Donc, le groupe Lançon BCC groupe 7 maisons qui sont des véritables maisons au sens même physique du terme, c'est-à-dire avec leurs propres caves, leurs propres vins, qui sont tous différents. Ce ne sont pas juste des marques que l'on badgerait en fonction des commandes. Non, c'est tout à fait différent. Ce sont des vraies maisons. Et nos maisons ont chacune un peu des spécialités. Par exemple, si je prends l'un des succès importants de ces dernières années en Champagne, qui est la création du champagne Tzarine, ça c'est un produit qui est encore à 80% franco-français. Donc on arrive à le développer malgré un marché en récession, ou en tout cas un marché difficile. Lançon, c'est 80% à l'export, vous voyez, c'est très différent. Nous avons aussi des marques de niche, comme la maison Philipponat, qui est une marque très prestigieuse, qui ne vend que dans la belle gastronomie chez les cavistes. De la même façon, le champagne de Venoge à Épernay, ou le champagne Bessera de Belfond, qui se trouve d'ailleurs à Épernay également, sont des marques qui ne sont pas dans la grande distribution. Donc, en fonction des types de marchés à l'intérieur même d'un pays, il y a aussi des variations, évidemment.
Est-ce qu'on retrouve toujours cette place importante du Royaume-Uni, hein, pour le champagne, pour justement pour les maisons champenoises?
Alors, l'exportation globale de champagne représente en volume un petit peu moins de la moitié, et en chiffre d'affaires un peu plus de la moitié. C'est intéressant, ça montre que les clients étrangers sont souvent plus friands de cuvées supérieures, de genre des millésimes, des choses comme ça, des cuvées de prestige. Bon. Et là-dessus, l'Angleterre reste le premier marché en volume. Par contre, en chiffre d'affaires, elle est distancée par les États-Unis. Mais l'Angleterre, malgré le Brexit, parce que je vous vois venir, c'est pour le moment se comporte bien. Ce qui, dans nos comptes, aura un impact, c'est tout de même l'effet de change, bien sûr, puisque nous faisons des tarifs annuels. L'Angleterre, pour le groupe Lançon BCC, c'est le premier marché d'exportation. Il faut se souvenir que la marque Lançon porte le brevet de fournisseur de la cour, ce qu'on appelle le Royal Warrant, sans discontinuer depuis la reine Victoria. C'est la seule maison de champagne, d'ailleurs, qui a une telle longévité en tant que fournisseur de la cour anglaise. Et pour les Anglais, ça a beaucoup d'importance. Donc c'est une marque qui fait presque partie du patrimoine anglais. Et nous y réalisons près de 40%, ce qui est important pour une maison de champagne.
Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui se sont confirmés pour vous? Est-ce qu'il y a des marchés porteurs, ou est-ce qu'on reste sur ces principaux marchés que vous avez évoqués?
Il faut bien voir qu'en matière d'exportation, le classement volume descend très vite. Par exemple, l'Angleterre, vous êtes dans un peu plus de 30 millions de bouteilles. Les États-Unis, vous êtes, qui est le deuxième marché, vous êtes à 20 millions de bouteilles. Et puis après, le troisième, vous êtes à 10 millions. Vous voyez, pour l'ensemble de la profession, j'entends. On a beaucoup de marchés qui nous font un peu rêver, naturellement. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. La Russie, il y a quelques années, jusqu'à l'affaire d'Ukraine, la Russie avait un développement formidable. Et puis, l'affaire d'Ukraine a un peu cassé les choses, et beaucoup de maisons de vin là-bas se sont retrouvées en faillite, etc. Et donc, le marché a beaucoup rétréci. Nous avons aussi, il y a quelque temps, beaucoup parlé de la Chine. Mais la Chine, dans le fond, s'avère pour le moment être d'abord un marché de vin rouge. Ils ne sont pas encore venus ni au vin blanc, ni au vin effervescent. Aujourd'hui, la Chine, c'est moins de 1% des exportations de champagne. Et en disant cela, j'inclus Hong Kong et Taïwan même, vous voyez, en mettant tout ça ensemble. Donc pour la Chine continentale, nous sommes dans peanuts.
Oui, ça veut dire que ça prend du temps.
C'est
pas un marché qui se crée en quelques semaines comme pour d'autres produits. Là, il faut habituer le consommateur, il faut lui faire découvrir, il faut plus que ça, quoi.
De toute façon, le champagne, c'est du temps. Ça, on n'est pas dans les nouvelles technologies, on n'est pas dans les tech, medtech, etc. Des choses où on trouve une molécule et d'un seul coup, votre entreprise passe de 1 à 100 en chiffre d'affaires, en valeur, etc. Le champagne, c'est une valeur très sûre, mais c'est du très long terme. Et je le dis, si un investisseur songe à investir en champagne, il faut qu'il ait un investissement plaisir, un investissement un peu hédoniste. Il ne perdra pas d'argent parce que, enfin en tout cas s'il investit dans une maison sérieuse. Nous avons introduit l'action par exemple, c'était en 96, à 4,80 €. Vous voyez, hein, ramené en euros, puisqu'à l'époque c'était des francs, et puis ramené au nombre d'actions, puisque entre-temps elle a été divisée par 10. Enfin, ça faisait 4,80 € d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le code 30, alors on peut dire c'est pas terrible, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur le très long terme, le champagne, quand c'est bien géré, c'est gagnant. Mais c'est du long terme.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, compte tenu de ces maisons que vous avez en portefeuille, vous êtes vraiment sur de la croissance organique, à développer des nouvelles cuvées, de nouveaux produits, vous êtes sur ce type de stratégie ?
Eh bien, actuellement, oui. Il faut voir que notre historique s'est faite beaucoup par croissance externe. La seule création interne, si je puis dire, c'est Tsarine, qui est un très grand succès. Mais les autres maisons, elles étaient très anciennes et nous les avons acquises, souvent dans des situations pas forcément faciles, reprises à des actionnaires extérieurs à la Champagne qui n'avaient pas forcément toujours su bien les gérer. Aujourd'hui, toutes nos maisons sont profitables, plus ou moins en fonction des aléas de marché, etc. Alors la croissance que nous faisons actuellement, elle est moins spectaculaire que les rachats, mais c'est de la croissance interne, consolidation de nos gammes, création de gammes toujours plus haut de gamme, c'est le cas de le dire. Par exemple, chez Lançon, vous avez peut-être remarqué récemment que nous venons de sortir une cuvée très, très haut de gamme qui s'appelle le Clos Lançon, qui est un vin qui va quand même, bon, ce ne sera pas des quantités astronomiques, mais ça va se vendre à plus de 200 € la bouteille. Chez Philippona, le Clos d'Aigoisse monte en puissance. Chez Devenoge, nous avons une nouvelle gamme qui s'appelle les Grands Vins des Princes, dans une très belle carafe. Ce sont des vins spectaculaires à servir et délicieux, délicieux à boire. Voilà, nous avons aussi en ce moment des investissements chez Boiselle en cours. Toutes nos maisons sont très actives, et je n'ai pas mentionné Bessera de Belfond parce qu'il n'y a pas de cuvée nouvelle cette année, mais enfin, chacun crée des choses plus haut de gamme, car il est important de monter en gamme. Oui, si on reste cantonné au strict, ce qu'on appelle le brut sans année, ce que je préfère appeler brut multimillésime d'entrée de gamme, là, la bataille concurrentielle est très sévère et la valeur ajoutée est laminée. Ouais.
Le mot de la fin, on dit souvent pour les maisons de champagne que les actifs sont liquides avec vos bouteilles. Qu'en est-il quand même de la situation financière de l'entreprise ?
La situation financière, elle est excellente, puisque je rappelle tout de même que lors de la dernière grande croissance que nous avons faite, à l'époque nous nous appelions Boiselle Chanoine Champagne, et quand nous avons acheté Lançon, depuis nous nous sommes rebaptisés Lançon BCC, eh bien quand nous avons acheté Lançon, à l'instant T, nous avions un gearing de 7 par exemple. Bon, ce qui n'était pas malsain, il ne s'agissait pas de financer des trous, ou du vent, ou des pertes, il s'agissait de financer des stocks, mais il y avait un manque de fonds propres évident. Chaque année, nous avons laissé l'essentiel du résultat dans l'entreprise, puisque le dividende est très petit, il ne représente que entre 10 et 20% du résultat, ce qui est très faible pour le moment, et ce sera encore le cas pour un an. Après, ça changera. Mais disons que ceci nous a permis graduellement de ramener notre gearing à moins de 2. Alors, moins de 2 dans le champagne, c'est normal. Parce que dans ce métier, pour faire 1 € de chiffre d'affaires, vous devez immobiliser 3 €. Je m'explique. Sur ces 3 €, 1 €, c'est votre outil de travail, vos caves, vos vignes, vos machines, vos immatériels, les marques éventuellement, etc. Et puis 2 €, c'est le stock. Et un bilan sain dans notre métier consiste à ce que l'euro d'immobilisation permanente soit financé par des capitaux permanents, c'est-à-dire des fonds propres, et que le stock soit financé par de la dette. C'est assez logique, ou peut-être pas en totalité, mais au moins aux trois quarts. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes quasiment à cette situation. Il nous faut encore un an pour être tout à fait parfaitement dans cette situation. Et ensuite, nous aurons la possibilité enfin de distribuer un peu de dividendes à nos actionnaires qui, pour le moment, ont été très patients.
Voilà, ils pourront du coup boire du champagne pour fêter ça.
Voilà.
Merci Bruno Payen.
Merci à vous de votre invitation.